Bonjour et bienvenue sur Fréquence Diagonale, une émission exceptionnelle aujourd'hui puisque je suis avec rien moins qu'un vice-champion du monde de Blitz, Maxime Vachier-Lagrave. Bonjour Maxime.
Bonjour Stéphane.
Alors Maxime, direct donc sur Fréquence Diagonale, alors vice-champion du monde de Blitz cette année, on va en parler bien sûr dans cette émission, ça va être un des gros moments. Mais aussi on va parler de toi plus généralement, de ta percée dans le top 10 mondial, hein, Tu es vraiment au top là actuellement, tu côtoies les sommets de l'Himalaya. Et puis un peu de ta carrière aussi, ta carrière en tant que joueur. Hein. Alors qui est Maxime Vachier-Lagrave en fait? Comment tu as appris à jouer aux échecs et comment ça t'est venu tout ça?
Alors donc pour faire simple, j'étais jeune, je devais avoir 5 ans et j'étais passionné, peut-être pas par les maths on peut dire, puisque bon c'est un peu jeune pour être passionné par les maths. En tant que tel, mais j'étais passionné par tout ce qui s'approchait du calcul, des nombres. Ouais. Et donc, mon père a eu l'idée que je passe un peu de temps libre sur les échecs. Il m'a appris les règles. Il avait un échiquier électronique, justement. Et donc, j'ai commencé à jouer sur cet échiquier électronique et à m'y plaire. Donc après, donc ça c'était en 95, et donc au début de la saison suivante, en septembre 96, j'ai rejoint le club de Créteil.
Ouais.
Donc, puis là j'ai commencé à m'y plaire, à jouer, je pense, les compétitions par équipe, les qualifications, donc d'abord les championnats départementaux, les championnats régionaux, donc c'était Val-de-Marne, Île-de-France.
Ouais, pour les jeunes, hein, donc là,
bien oui, sûr. Oui, pour les jeunes moins de 8 ans.
Ouais.
Donc, dans les deux cas, je crois que je me suis qualifié à l'arraché. Et par contre, au championnat de France, jeune en avril à Montluçon, donc avril 97, j'ai remporté le titre.
Eh ouais. Tôt, très tôt, donc déjà. Hein. C'est quand même donc très peu de temps après avoir appris, finalement.
Oui, bah, c'était un an après avoir appris les règles. Et bon, bah, sur ma première saison en club, c'est vrai que. Voilà, après, disons que j'ai pas. C'était naturel pour moi de jouer, d'être en compétition. Après, c'est vrai que, je sais pas, je pense que, je crois me souvenir que mon premier entraîneur, donc à ce moment-là, c'était Eric Birmingham, qui, voilà, aimait bien m'avoir en cours, qui pensait que j'étais doué. Bon, visiblement, c'était le cas.
Oui, effectivement, il s'est pas trompé. Eric Birmingham, dont on peut parler un petit peu, qui est un grand monsieur des échecs en France, hein, puisque... Pendant très longtemps, il a tenu notamment une rubrique échecs dans le journal L'Humanité.
D'ailleurs, je pense, enfin, alors aux dernières nouvelles, je pense qu'elle y était encore.
Oui, et effectivement, il a fait beaucoup de choses, notamment qu'a commenté des...
Oui, il a organisé également.
Il a organisé, et il continue d'ailleurs, hein, de oui. faire des opérations de promotion et d'activisme de production échiquienne. Voilà, donc juste
oui,
pour dire un mot.
Vrai que je suis encore en très bon terme avec lui et puis je le côtoie régulièrement, évidemment.
Voilà, un grand monsieur des échecs, effectivement. Donc tu as eu un bon coaching hein, dès le départ avec effectivement ce grand champion. Et alors donc tu marches bien chez les jeunes. Alors tu as eu plusieurs titres chez les jeunes.
Alors chez les jeunes, oui, au championnat de France, j'ai eu plusieurs titres. Alors après, j'ai commencé aussi à sauter des catégories, alors pas au début, mais donc. Enfin, si, au tout début, en fait, puisqu'en gagnant le titre Petit Poussin, après, je suis allé immédiatement chez les Poussins, mais j'ai remporté le titre 2 ans plus tard, donc en 99 chez les Poussins, ensuite en 2000 chez les Pupilles, en 2002 chez les Minimes, et en 2004 chez les Juniors.
Eh ben, donc tu les as tous collectionnés, sauf le cadet.
Cadet et Benjamin.
Voilà, donc tu les as ratés. Alors peut-être parce que tu étais pris par tes études, parce que finalement tu n'as pas non plus basculé automatiquement vers une activité professionnelle. Je crois que tu as continué tes études assez tard.
Oui, alors après, disons que ne pas continuer ses études, au moins en France, c'est l'exception. Et je pense que la donne a changé également à l'étranger. Je pense que la plupart des jeunes joueurs continuent leurs études, alors plus ou moins sérieusement peut-être, mais... Donc toujours est-il que, enfin, ce n'est pas parce que j'étais à l'école que j'ai raté les titres, je pense. C'est juste que bon, certaines années, je jouais moins bien et mes adversaires jouaient mieux, donc voilà. c'est pas plus compliqué que ça, je pense.
Voilà, c'est bien de leur rendre hommage aussi. Parfois, on en perd des parties aussi. On fait pas comment gagner. Alors, je crois qu'il y a une apothéose hein, quand même dans ta carrière jeune, puisque tu deviens, en, je crois que c'est 2009. C'est ça, je me trompe pas. Champion du monde junior. Hein.
Oui, le deuxième champion du monde junior français. Alors, en effet, c'est-à-dire que j'avais arrêté les compétitions jeunes, je pense, après 2005. Donc, 2004, c'était mon titre en junior.
Ouais.
En France. Et en 2005, je pense que j'ai raccroché les compétitions internationales. J'avais dû finir troisième, en fait, au championnat du monde jeune. Mm-hmm. Alors, bizarrement, j'avais jamais gagné, en fait. J'avais dû finir une fois deuxième en 2003. Et. Trois fois troisième, si je me trompe pas. Donc, dans différentes catégories, je pense troisième chez les moins de 10, moins de 12, moins de 16, et deuxième en moins de 14. Mais donc, après, j'avais arrêté les compétitions internationales jeunes. Disons que j'étais déjà établi grand maître. Et bon, la plupart des jeunes, justement, qui étaient. De mon niveau ou au-dessus, donc je pense bien sûr à Sergei Karyatin, à Magnus Carlsen, puisqu'on est de la même catégorie,
oui.
Et à d'autres, ne jouaient plus, donc bon, l'intérêt devenait assez limité. Mm-hmm. Après, donc la fédération de l'époque, donc c'était Jean-Claude Moin aux commandes, notamment, et Laurent Vera, qui est toujours, pour encore quelques jours, à la fédération, donc m'avait proposé... plutôt que de jouer le championnat d'Europe par équipe en 2009 à Novi Sad, de jouer à la place le championnat du monde junior en Argentine. Mm-hmm. Au début, je voyais pas tellement l'intérêt, disons que je voyais plus peut-être les dangers que la possibilité de gagner le titre, parce que j'étais quand même le clair favori, donc puisque... Et encore une fois, ni Magnus Carlsen, ni Sergei Karyatin ne participaient, entre autres. Mm-hmm. Mais bon, finalement, j'ai fini par me laisser convaincre. Et donc, je suis allé en Argentine, bon, dans des conditions voilà, qui sont ce qu'elles sont, celles d'un Open. Je me suis retrouvé au coude à coude avec un autre joueur et j'ai réussi à gagner ma dernière partie pendant qu'il faisait nul, alors qu'il avait 20 points d'avance et à l'emporter... je sais plus quel était le système de départage, ça devait être la moyenne LO.
Oui.
Donc toujours est-il que bon, en fait, on a fini bien au-delà des autres concurrents, mais donc c'était Sergei Gigalko. Et toujours est-il que voilà, on a eu une belle aventure tous les deux. Et, bon. Finalement, j'étais un peu chanceux à la fin et j'ai remporté le titre.
Oui, alors je crois qu'il faut toujours un peu de chance, puisque tu disais effectivement tu es le deuxième et le premier, c'est bien entendu Joël Lautier. Tout le monde le sait, enfin tout le monde le sait, non, ceux qui étudient un peu l'histoire du jeu le savent maintenant. Je crois que c'était en 87, il me semble, son titre, quelque chose comme ça.
Alors je sais où c'était Adélaïde.
Oui,
mais après, j'aurais dit 88. Mais
oui,
après,
peut-être 88. Alors oui. Là, ouais. C'est peut-être 88, effectivement, mais je crois déjà à l'époque aussi, il l'a eu au départage. Je crois que c'est fait à très peu de choses.
Oui, oui. Oui, après, non, mais quand je parlais de réussite dans les parties, mais bon, pour être honnête, Sergei Gigalko en avait eu aussi. Je me rappelle que, bon, alors moi, j'avais remporté une partie très compromise, mais lui également avait eu des adversaires qui avaient refusé des propositions nulles pour finalement perdre des choses comme ça. Mais ce sont les aléas d'un tournoi, évidemment. Quand
bien sûr.
Les premiers, en général, ont eu de la réussite. Ou alors, ils ont vraiment archi-dominé le tournoi.
Alors ça, c'était un événement quand même tout à fait considérable. Un titre de champion du monde, bon, c'est assez rare, même chez les jeunes. Et champion du monde junior, donc le deuxième en France. Voilà, donc... c'est quand même un résultat tout à fait exceptionnel. Puisqu'en général, on constate que tous les champions du monde junior ont ensuite, bien sûr, rejoint le top niveau mondial. Alors, ce qui est encore une fois constaté avec toi. Alors, tu parlais juste avant d'un autre point important de ton parcours échiquien. Bien sûr, c'est le titre de grand maître. Alors, ça fait quoi de devenir grand maître? Parce que, donc, tu obtiens le titre à quel âge?
Alors, j'ai obtenu le titre à 14 ans et demi, en gros. En fait... au début, je plafonnais, j'avais même, je pense, enfin, je plafonnais en quelque sorte dans cet objectif, si on veut. C'est-à-dire que je n'étais même pas encore maître international, j'avais deux normes.
Ouais.
Et là, j'ai eu un déclic au championnat de Paris 2004, où j'ai réalisé une norme de grand maître, donc qui m'a donné le titre de maître international. Mais surtout, j'ai réalisé la norme avec un point d'avance. Bref, toujours est-il que, comme ça, j'ai eu sans doute un déclic et j'ai enchaîné mes deux normes. Peut-être pas dans les deux tournois suivants, mais...
assez vite. Ouais,
6 mois plus tard, j'étais grand maître.
Ouais, et donc alors ça fait quoi là, d'obtenir ce titre tant convoité? Parce qu'il y a quand même, on sait qu'il y a environ 500-600 grands maîtres dans le monde, pas plus. Donc c'est évidemment, c'est un titre qui fait rêver tous les joueurs, hein, la plupart des joueurs. Bon, alors évidemment, plus toi, puisque tu l'as le titre, bien sûr, mais tous ceux qui nous écoutent, évidemment, pour nous, les grands maîtres, c'est quand même le top du top. Hein. Alors ça fait quoi d'obtenir ce titre? Est-ce que...
Ouais, alors le problème de fond, c'est que déjà à l'époque, c'est-à-dire, je savais que le titre n'était pas plus ou moins qu'une question de temps, mais le but c'était de l'obtenir le plus vite possible, le plus rapidement possible, et me tourner vers d'autres objectifs et donc continuer ma progression.
Oui.
C'est-à-dire que c'est vrai que on peut dire que ma carrière commençait justement à ce titre de grand maître, mais voilà, quand les choses se déroulent si facilement et si linéairement, on en attend toujours plus de soi-même, et donc je me suis jamais retourné vers mon titre de grand maître, ça c'est certain.
Ouais, donc c'était pour toi, tu l'as vécu comme une étape finalement. Hein.
Voilà.
Tu l'avais déjà intégré comme un objectif réalisable, et tu sentais que c'était un point important, mais qui ne faisait qui n'était qu'une étape vers une progression plus loin derrière, d'accord. Et alors, tu vas enchaîner aussi alors des titres dans des tournois importants. Alors, tu as parlé tout à l'heure de Carsten d'ailleurs, dont tu as rappelé qu'il fait partie de la même génération que toi. Et alors, il y a deux tournois où tu as quand même marqué, je crois, que tu as quand même marqué ton empreinte. C'est bien sûr le championnat de France, puisque tu en as gagné 3 à ce jour.
Oui. Et... alors, c'est vrai que j'ai commencé à jouer le championnat de France assez tôt, donc dès l'âge de 13 ans. Alors, je sais pas si disons, j'étais encore apte à le jouer, mais bon, j'avais fini 10e du national. Bon, c'était... je parle uniquement du national, bien sûr, j'avais joué l'accession quelques années auparavant. Ensuite, les choses se sont bien goupillées pour moi, mais après, j'ai eu une première... chaude tentative en 2005 de remporter le titre.
Mmh.
Je crois que je suis arrivé un demi-point derrière Joël. Mais j'étais en tête à un moment du tournoi, mais bon, après, c'est pas comme ça qu'on détermine le champion, ça c'est sûr.
Oui.
Et ensuite, donc j'ai eu mon premier titre en 2007 au tie-break contre Vlad Kachev. Voilà, c'était pas un tournoi dominé d'ailleurs de la tête des épaules, clairement, puisque ça s'est joué au tie-break. J'ai dû remporter une partie très, très importante à l'avant-dernière ronde avec les Noirs, contre Robert Fontaine.
Ouais.
D'ailleurs, qui fait partie de mes meilleures parties à ce jour. Et j'avais perdu dans le tournoi contre Vlad, justement. Donc ça s'est vraiment pas joué à grand-chose, mais c'est vrai que, encore une fois, c'était une belle étape de franchi.
Oui, une belle étape de franchi, effectivement, puisque là, tu t'installes au top, disons, au top français en ayant un titre, bien sûr. Alors, t'es pas le seul à avoir le titre, on en a quand même quelques-uns qui l'ont. Et alors, il y a un autre tournoi aussi, alors on pourra parler des autres victoires aussi, si tu veux bien, du championnat de France, mais il y a un autre tournoi aussi que j'ai trouvé, moi, important quand j'ai suivi ta carrière un petit peu, c'est le tournoi de Bienne, puisque tu l'as joué, je crois, plusieurs fois. Et notamment, il y avait Carsten et tu l'as gagné une fois. Alors, je crois qu'il n'y avait pas Carsten quand tu l'as gagné.
Alors, je l'ai gagné 3 fois maintenant.
Voilà, 3 fois.
Et c'est vrai que je me sens bien à Bienne, c'est-à-dire que bon, j'y ai mes repères. J'ai l'habitude de jouer là-bas, c'est vrai que donc, ça fait depuis 2009.
Ouais.
Donc, j'avais remporté à mon premier essai, alors avec un peu de réussite, avec une partie... assez folle contre Morozevic, Alexander Morozevic. Donc j'avais vraiment j'étais passé très près de la correctionnelle dans cette partie et je l'avais finalement emporté. c'est également une de mes plus belles parties, donc une de mes plus belles défenses et bon, une partie très excitante, c'est vrai. Après, comment dire, alors c'est vrai que je suis très fier de l'avoir. D'ailleurs, je dis que je l'ai remporté 3 fois, mais maintenant c'est 4 fois. Oui, 4 fois. En fait, je l'ai remporté donc les 3 dernières cette édition là en 2009. Donc après en 2010, c'était un format différent, c'était un tournoi avec 10 jeunes grands maîtres. J'avais joué les départages pour la première place, mais je m'étais pas imposé. Donc en 2011, là, c'était le retour de Magnus Carlsen, justement.
Oui.
Il aimait bien aussi, il jouait bien quand il le pouvait. Donc après, bon, quand il a pris un autre statut, c'était simplement plus possible qu'il joue, mais je sais qu'il a beaucoup aimé de jouer, donc il a joué en 2011-2012. Donc en 2011, il l'emportait. En 2012, je ne faisais pas partie du plateau. J'avais eu une période assez difficile en termes de classement Elo. Et donc après, j'ai rejoué donc à partir de 2013 jusqu'en 2015. Donc à chaque fois, alors ça s'est rarement joué à grand-chose, mais au final, c'est vrai que j'ai pu remporter ces 3 titres. Et c'est vrai que c'était très souvent un plateau très homogène, en fait, donc avec 6 joueurs qui tutoyaient les 2700, en quelque sorte, et donc parfois 2750, mais je veux dire, c'était vraiment un tournoi très homogène où à chaque fois, au moins 5 des 6 joueurs pouvaient l'emporter s'ils étaient dans une bonne forme, donc et avec un peu de réussite, et donc c'est vrai que c'est un beau résultat justement de l'avoir remporté ces 3 fois.
Ouais, ça fait partie de tes meilleurs résultats, ceux que tu portes le plus dans ton cœur, ce tournoi de Bienne, avec peut-être le championnat de France, ou est-ce qu'il y a d'autres tournois aussi que tu as apprécié de gagner particulièrement?
Ouais, alors bien évidemment le championnat du monde junior. Après, c'est vrai que le tournoi de Bienne est assez spécial. Après, c'est vrai que le problème c'est que quand je l'ai remporté, alors à part peut-être en 2009 où Morozevic et Gelfand faisaient vraiment partie du gratin mondial à cette époque, il manquait vraiment un joueur phare, on va dire, à chacune de mes victoires. C'est-à-dire il n'y avait pas Carlsen, il n'y avait pas Anand, il n'y avait pas Kramnik, il n'y avait pas Nakamura,
oui.
Il n'y avait pas Caruana, donc je peux faire une liste comme ça. Et c'est vrai que mon prochain gros challenge, c'est justement de remporter un de ces tournois. Alors, à commencer, peut-être, donc là, j'ai pu jouer cette année le Grand Chess Tour.
Oui.
Et donc, bon, dans les 2 premières étapes, j'ai fait un résultat honorable, mais sans non plus casser
la baraque.
Mais ouais. Donc là, il me reste une opportunité avec le tournoi de Londres. Donc là, on peut pas faire vraiment plus dur. Donc il y a quasiment tous les meilleurs joueurs du monde. Donc on va voir comment ça se passe là-bas.
Ouais, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Alors ouais, je crois qu'on a bien vu ta carrière, puisqu'on là on arrive vraiment aux époques présentes. Alors on arrive maintenant à un point important, bien sûr, de cette émission, c'est un titre, même si c'est un titre de second, mais ça compte aussi, un vice-champion du monde de Blitz, voilà, donc à Berlin, 2015. Alors ça, c'est un résultat vraiment exceptionnel. Donc tu termines deuxième, juste derrière Grichuk, qui, je crois, l'a gagné 3 fois, et devant le grand Kramnik, avec Carlsen un peu dans les choux. Alors raconte-nous ça, un championnat du monde de Blitz, est-ce que c'est ton premier, ton deuxième, ton troisième? Et puis, comment s'est déroulé ce super championnat du monde 2015? Comment tu peux raconter ça?
Oui, alors c'était mon deuxième championnat. Alors j'ai joué l'année précédente à Dubaï, bon, ça avait été un fiasco complet. Alors après, ce qui se passe, c'est que donc en Blitz, je fais partie au moins en termes de classement, et bon, par certains de mes résultats, des meilleurs joueurs du monde. Donc je savais que j'étais, on va dire, un des 5 ou un des 10 favoris au pire pour remporter le tournoi. Mais bien sûr, Magnus était le grand favori, si on veut. Il a toujours répondu présent dans ce genre de tournoi.
Surtout qu'il tenait la triple couronne, hein, c'est-à-dire qu'il est champion du monde. Avant ce tournoi, il est champion du monde bien sûr, toute catégorie, ça tout le monde le sait. Mais il était aussi champion du monde rapide l'an dernier, champion du monde de blitz aussi, donc il avait les trois. Oui. Et là, il avait gagné déjà le rapide ou ça s'est fait après, je sais plus.
Non, il avait déjà gagné le rapide.
Donc, il était en train de briguer finalement le doublé de la troupe, de la triple couronne.
Oui. Donc, oui. Ça aurait été quelque chose. C'est vrai que c'est assez exceptionnel ce qu'il a fait justement de remporter ses tournois Open, rapide, blitz.
Ouais.
Plusieurs fois, parce que disons que ce sont des tournois qui sont sujets à des aléas, et bon, finalement il n'a pas échappé à ces aléas pour une quatrième fois, parce que alors ce qui s'est passé, c'est que le championnat du monde blitz était réparti sur deux jours et 21 parties, donc le premier jour on a joué 11 parties.
Ouais.
Et donc le premier jour j'ai joué un niveau en fait assez exceptionnel, je dois dire. C'est-à-dire que bon, je me suis habitué à jouer vraiment bien en blitz, donc j'ai des facilités de calcul, des facilités d'intuition, des facilités aussi techniques, c'est-à-dire pour jouer, pour convertir les bons avantages en finale ou pousser des positions égales.
Oui, alors je peux dire pour les auditeurs qui n'auraient pas les résultats, moi je les ai devant moi, tu as fait 9 points sur les 10 premières rondes avec une seule défaite.
Alors non, alors voilà, bah justement j'allais y venir, donc j'ai fait 9,5 oui sur 11.
Ouais.
Donc j'ai perdu contre Magnus qui avait très bien joué cette partie, j'avais pas spécialement mal joué, donc bon évidemment il y a eu des erreurs, mais je veux dire j'étais vraiment très content plus que par mon nombre de points, par la manière avec laquelle j'avais joué, donc j'avais battu par exemple les Van Aronian et à chaque fois dans des parties assez propres, disons, sans avoir vraiment de réussite, à part peut-être contre Sergei Karniakin qui m'a donné une tour à un coup,
ouais.
Mais pas dans une mauvaise position donc, pour moi. Donc ensuite, juste derrière, était Magnus Carlsen, donc qui avait 9 points justement après le premier jour, donc qui m'avait infligé ma défaite, qui venait de perdre la dernière partie. Et donc, finalement, ce qui s'est passé, je pense, c'est que le deuxième jour, cette défaite l'a peut-être mise sous pression, ou peut-être... toujours est-il qu'il n'a pas échappé aux aléas, et il a fait une très mauvaise deuxième journée, je crois qu'il a fait 50%.
Ouais.
Ce qui se passe, c'est que... Alors, j'ai aussi fait une mauvaise deuxième journée, mais alors, de façon assez bizarre. C'est-à-dire que j'ai commencé par beaucoup de nuls, quelques victoires. Alors là, c'est peut-être la pression justement du championnat qui était sur mes épaules, c'est-à-dire que bon, je continuais à être en tête ronde après ronde. Alors je poussais peut-être pas assez certaines positions où j'aurais pu essayer de gratter une victoire, mais à la place je me satisfaisais assez facilement d'une nulle. Et au final, donc après la 17e partie, donc que je remporte proprement, soudainement je me retrouve à la suite de résultats favorables avec 1,5 d'avance sur tout le monde, avec 4 parties de la fin.
Oui.
Donc alors je ne sais plus qui était ce tout le monde, je pense qu'il y avait Sergei Karniakin, il y avait Alexander Grishuk. Je pense que Magnus était déjà à 2 points, mais là j'ai plus vraiment tous les résultats en tête. Toujours est-il que... Disons qu'à ce moment-là, la pression s'est relâchée, et disons que j'ai pensé que j'étais mon plus gros adversaire à ce moment-là pour le titre, clairement.
Ah, tu penses ça carrément, tu te dis dans ta tête, attention, je suis mon opposant numéro 1, c'est à moi que je dois faire attention plus qu'à mon adversaire, parce que je risque finalement me déconcentrer, me relâcher, parce que j'ai de l'avance, et donc mettre en l'air mon tournoi, quoi. C'est ça, hein, c'est ce que tu te dis.
Oui, c'est ça en quelque sorte. C'est-à-dire que j'ai 1,5 d'avance, un tie-break effarant, c'est-à-dire que j'ai fait tout le tournoi table 1 ou 2. Donc,
oui, le départage est extrêmement favorable, du coup, aussi, en plus.
Donc,
quoi.
Ce qui se passe, c'est qu'en gros, j'ai besoin de faire 1,5 moins que mes principaux concurrents, donc ce qui semble en 4 parties c'est normalement une tâche
insurmontable, oui.
Pas insurmontable, mais ce qui s'est passé, c'est que dès la partie suivante j'ai joué justement contre quelqu'un qui avait un très beau, qui faisait un très beau parcours, mais qui ne fait pas du tout partie de l'élite, donc, et je me suis retrouvé dans une finale au début égal puis supérieur, donc force de pousser. Et après, j'ai perdu toute objectivité et j'ai trop poussé à un moment où il fallait plus pousser et j'ai perdu.
Ouais, ça, c'est face à Yuri Vokf, un rond de 18. Ouais.
Et donc, la partie suivante, je joue contre Ivanchuk.
Le grand Ivanchuk, ouais, ouais.
Pas le bon Ivanchuk à jouer, celui qui vient d'enchaîner plusieurs victoires.
Ouais.
Et donc, cette partie s'est très mal passée, surtout que je sortais d'une défaite.
Est-ce qu'Ivanchuk, quand tu joues Ivanchuk comme ça, je suppose que c'est pas la première fois, est-ce que tu as une appréhension particulière? Parce qu'on sait qu'il est capable, même encore aujourd'hui, de sortir des parties parfois extrêmement difficiles à analyser, qui sortent un peu de. Comme un magicien, il sort des coups extraordinaires.
Oui, alors après, je vais pas critiquer la qualité des parties en blitz, qui était justement d'assez bonne facture, mais bon, c'est du blitz, on n'a pas le temps d'avoir
bien sûr.
Une appréhension, mais bon. Toujours est-il que bon, j'ai eu plus ou moins aucune chance dans cette partie. Et donc finalement, je me retrouve soudainement, on est, je crois, 4 joueurs en tête à 2 parties de la fin, soudainement. Et donc, j'ai fini ces 2 parties avec 1,5 sur 2, mais ça n'a pas été suffisant puisque Alexander a fini par 2 victoires.
Ouais.
Et donc, au final, disons que le titre, j'ai vraiment eu l'impression de l'avoir perdu, ce qui fait que, alors d'un côté, je peux m'appuyer sur mon niveau de jeu tout au long du tournoi. D'un autre côté, je sais que le niveau de jeu en tournoi de Blitz est assez erratique et donc peut complètement varier d'un tournoi à l'autre, même d'une journée à l'autre, comme on a pu le voir avec Magnus ou avec moi.
Oui.
Et ce qui fait que, bon... Avant d'être un très beau résultat, c'est quand même une déception, en fait, pour moi.
D'accord, c'est quand même une petite déception, malgré le fait que tu sois vice-champion du monde. Donc, ça veut dire quand même, oui, que tu as la volonté, hein, vraiment, d'aller chercher les titres. Hein. Tu ne te contentes pas de cette demi-place, alors. Hein.
Bah, alors, d'un point de vue pragmatique, évidemment, je peux m'en contenter. Surtout que, bon, si je ne gagne pas la dernière partie, je me retrouve... Et qu'au contraire, je perds, je me retrouve 7 ou 8e, quelque chose comme ça.
Ouais.
Mais évidemment, j'avais l'impression d'avoir le tournoi en main. Alors, après, je peux pas dire que je vais chercher les titres comme ça, surtout que bon. Alors, après, si pour le tournoi de Blitz, je savais que c'était un tournoi, alors, en quelque sorte, à ma portée, c'est-à-dire que bon, à moins que Magnus ne délivre une performance, encore une fois, qui serait énorme, c'est-à-dire de gagner les. Quel titre rapide et blitz à la suite. Bon, je faisais partie d'un pack outsider.
D'accord. Alors, on va revenir, si tu veux bien, Maxime, hein, juste après une première pause musicale. On va revenir sur ce tournoi de blitz. On va parler d'une partie que moi j'ai suivie, que j'ai trouvée extraordinaire, celle que tu as jouée face au grand Vladimir Kramnik. Et puis ensuite, on continuera, on parlera du top 10 mondial et puis on parlera aussi de la France, de l'équipe de France, si tu veux bien. Donc une petite pause musicale sur Fréquence Diagonale et on se retrouve donc juste après. Thank you. Et nous voici de retour donc sur Fréquence Diagonale, toujours avec donc le vice-champion du monde de Blitz, Maxime Vachier-Lagrave. Donc alors on parlait hein, juste avant la pause, Maxime, de ton super hein, tournoi de championnat du monde de Blitz. Alors tu dis, tu es quand même déçu du résultat, puisque en effet, à la ronde 17, tu as donc un point et demi d'avance, et puis tu perds face à Youri Vovk et le fantasque Vassili Ivanchuk. Et comme tu disais, effectivement, en Blitz, il peut toujours se passer un peu n'importe quoi. C'est comme une cadence, bien sûr, où les aléas sont plus forts qu'en partie longue. Alors moi, je voulais qu'on parle aussi de cette deuxième journée, après une première journée extraordinaire, hein, 9 points sur 10... et même 9,5 sur 11, tu nous expliquais. Alors, deuxième journée plus difficile, bon, c'est aussi un peu normal, je pense, parce qu'on est en Open. Donc, en deuxième journée, on joue face aux joueurs qui ont beaucoup de points aussi, si on est en tête, et donc des joueurs qui sont en forme. Donc, c'est forcément plus dur, déjà.
Alors, c'est vrai que, disons, on peut dire que, justement, mon tournoi n'a pas été facilité, mais ça, c'est dès la première journée. Parce qu'en Blitz, il est très important d'être justement dans le rythme, et on peut voir que tous les joueurs qui finissent dans le chapeau de tête ont eu soit une excellente première journée, soit une excellente deuxième journée, et en général ont démarré une série à un moment, une série de très bons résultats. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'en étant en tête tout le tournoi, dès la première journée j'ai joué des joueurs qui justement étaient en confiance, qui venaient de remporter des parties consécutives, qui n'avait pas perdu, je crois que je n'ai pas joué un adversaire qui avait perdu une de ses trois dernières parties, quelque chose comme ça.
Ah oui.
Oui, donc ça, mais c'est normal, c'est-à-dire que bon, j'étais en tête et je jouais des joueurs comme ils venaient.
Et voilà.
Des joueurs qui arrivent table 1, bon, forcément, ils n'ont pas perdu voilà. Depuis longtemps.
Et donc voilà, donc c'est un peu plus difficile. Hein, ouais.
Alors, voilà, mais c'était difficile dès la première journée, donc j'ai eu énormément de parties intenses et accrochées.
Oui, alors ben oui, alors c'est un championnat du monde aussi. Hein.
Il y a que
que des grands maîtres en face et tous à quasiment à 2006, 2007, 2008, voilà, même 2009 pour Carlsen. Hein, donc c'est voilà, donc forcément.
Oui, alors après on va pas accorder trop d'importance au Hello Blitz. Oui,
bien sûr.
Mais c'est vrai que la plupart des joueurs que j'ai joués étaient 2700 en cadence classique.
Ouais, voilà, donc exceptionnel. Alors, tu as fait une partie que moi j'ai regardée avec attention, j'ai regardé vraiment coup après coup avec un grand intérêt, puisque, alors bon, tu avais perdu celle face à, bien sûr, Magnus Carlsen, champion du monde, mais alors tu joues un autre champion du monde, ronde 15, donc cette fameuse deuxième journée que tu démarres finalement assez bien, parce que tu es en tête du tournoi, tu joues des joueurs en forme, tu n'as toujours pas perdu, tu as fait 2 nuls, un gain, une nulle face à Onichuk, ronde 14. Et la ronde 15, tu joues face au grand, très grand Vladimir Kramnik. Hein, donc je rappelle, 14e champion du monde de l'histoire en classique, vainqueur de Garry Kasparov, toujours dans le top niveau mondial, et qui donc a donné son titre à Anand, qui ensuite donc, l'a donné à Carlsen. Donc tu joues Kramnik, que tu as sans doute déjà joué plusieurs fois, mais cette fois en blitz, et tu fais une super partie où effectivement, là on peut effectivement, là aussi se dire, bah, il a raté quelque chose, quoi, il a manqué un truc, quoi.
Ouais, alors, comment dire, donc Vladimir, c'est un très grand joueur, bien sûr, un très grand champion. En blitz aussi, c'est un excellent joueur. Après, je pense également qu'il n'a pas les mêmes facilités que moi à jouer en blitz, alors il les a eu, je pense, mais bon, là maintenant, il est plus âgé, donc il arrive sur 40 ans, et bon, c'est évidemment possible de conserver un très bon niveau de blitz à 40 ans, c'est pas du tout ce que je veux dire, d'ailleurs, que ce soit Vladimir, ou Vassili Ivanchuk, ou Boris Gelfand, ou Vichy Anand l'ont montré ces derniers temps.
Oui.
Mais c'est évidemment plus compliqué et moins intuitif, disons, de jouer vraiment très rapidement et de ne pas... Et aussi de tenir les deux jours, c'est-à-dire que c'est deux jours vraiment assez intenses où les parties peuvent se retourner vraiment sur un coup, donc il y a évidemment beaucoup de montées d'adrénaline. Et donc sur deux jours, c'est vraiment très difficile à tenir pour un joueur de l'âge de Vladimir Kramnik. Alors c'est dur à dire comme ça, mais bon, c'est la vérité aussi.
Oui, bien sûr. Il y a la concentration qui est un peu plus difficile à tenir dans la durée. Oui, bien sûr.
C'est... Voilà. Donc, disons que forcément, je pensais, donc surtout au vu du tournoi, que bon, je devais tout faire pour gagner cette partie. Et donc, en effet, je me suis retrouvé. Bon, j'ai réussi à me retrouver un peu mieux. Alors après, j'ai un peu gâché. Et puis, au moment où justement il tenait plus ou moins la nulle, il s'est déconcentré et il m'a permis de d'obtenir une finale très avantageuse. Alors après c'est aussi sous la pression du temps, il était sous pression au temps évidemment, puisque j'avais joué assez rapidement. Et après je me retrouve avec paire de fou et un pion de plus, donc c'est-à-dire que même en blitz je m'attends à gagner cette position au minimum 9 fois sur 10, mais j'étais plutôt sur 95% du temps vraiment.
Ouais.
Je pense que vraiment cette position je dois la gagner au grand minimum 9 fois sur 10, mais bon. Après il a trouvé quelques ressources auxquelles je ne m'attendais pas, j'ai joué un ou deux coups trop vite, même pour du blitz, et il a réussi à tenir. Alors je sais pas si c'était un tournant du tournoi, mais...
Ah, ça peut jouer, parce que même psychologiquement, tu...
Ça, mais après, disons que ça n'a pas joué psychologiquement à ce moment, puisque après ouais. J'ai réussi à me remettre immédiatement dans le bain, et à tenir une partie compliquée d'ailleurs contre le futur champion,
ouais,
contre Alexander.
Ouais.
Et donc, au contraire, après cette partie contre Vladimir, je me suis remis dans le bain, et justement, j'ai enchaîné... donc une bonne défense contre Alexander et ensuite une bonne victoire contre Peter Sudler.
Ouais.
Et c'est à ce moment-là justement que j'avais cette avance au tournoi.
Et c'est là qu'il y a la chute un petit peu. Donc évidemment ça, là on voit peut-être l'aspect tu disais hein, cette histoire, bon évidemment avec l'âge il peut y avoir un problème de concentration de la durée, il y a cet aspect sportif du jeu d'échecs là qui apparaît d'autant plus peut-être en blitz quoi, hein, cet aspect de résistance physique. Alors est-ce que pour ça d'ailleurs, est-ce que toi-même tu fais un peu de sport je dirais physique pour te maintenir en forme devant l'échiquier?
Oui, ça c'est plus ou moins obligatoire maintenant en fait, c'est-à-dire que... Alors après, je sais que par exemple, Magnus Carlsen fait extrêmement attention à sa condition physique et vraiment, je pense, consacre au moins 2 à 3, voire 4 heures par jour à faire du sport.
Ouais.
Je suis beaucoup moins sportif que lui et ouais. Que d'autres personnes en général, mais bon, je consacre quand même pas mal de temps à courir, notamment, parfois faire du tennis
ouais.
ou d'autres sports, mais c'est vrai que, disons, je vais pas me forcer à faire des sports que je n'aime pas
oui.
faire, mais d'un autre côté, alors courir j'aime bien, ça me libère, ça me permet de déstresser, et donc je le fais vraiment régulièrement, surtout en dehors des tournois, je dois dire.
D'accord, donc il y a quand même aussi cette compréhension de devoir maintenir une activité sportive. Je ne sais pas si tu avais vu aussi, comme on a pu le voir, un reportage sur Kasparov qui était passé sur une chaîne française.
Oui, ce reportage il date, mais je l'avais vu.
Voilà,
évidemment.
Où il faisait des pompes, on le voyait faire des pompes avec assiduité, et voilà, on savait que... Bon,
il y avait aussi une partie de spectacle, hein. Enfin, évidemment qu'il prêtait grande attention à sa résistance physique, mais bon, c'était aussi un peu...
Il y avait du bluff,
ouais.
Il y avait peut-être pour impressionner ses concurrents. D'accord. Donc, donc super résultat quand même, hein, malgré bon, mais peut-être une petite déception pour toi, mais je crois que c'est une grande fierté pour les Français, hein, parce que bon, mais tu représentes aussi la France, hein, forcément. Donc on est forcément très content quand un titre mondial ou une deuxième place mondiale vient dans l'escarcelle du palmarès des joueurs français. Forcément, puisque on est supporter aussi, on suit les parcours des...
Disons qu'une deuxième place en n'ayant pas menacé de remporter la compétition, c'est plutôt un bon résultat, évidemment,
ouais.
En général. Mais bon, une deuxième place en étant si proche du titre, forcément, ça peut pas avoir la même saveur.
Ouais. D'accord. Alors d'ailleurs, il y avait d'autres Français dans ce championnat. Alors, il y avait donc Étienne Bacrot, Laurent Fraissinet, Christian Bauer.
Oui, entre autres, il y avait Romain Edouard également.
Romain Edouard.
Vraiment plusieurs. Il y avait Maxime Lagarde, Adrien Demuth. On était vraiment tout un clan de Français, en fait. Donc on se réunissait entre les parties, puisqu'il y avait environ 20 minutes de pause entre chaque partie, évidemment, le temps de faire les appareillements, de ramener tout le monde.
Ouais.
Donc on se donnait nos résultats, plus ou moins. Alors, bon, c'est vrai que moi, j'étais un peu sur ma planète à jouer le titre, donc je ne suivais pas assidûment, c'est-à-dire j'entendais les résultats, mais j'ai pas réussi à me souvenir du fil ronde par ronde ou même du résultat final des autres Français. Je sais que Laurent a fini deuxième Français, je pense.
Oui.
Donc moi j'avais fini à plus 9, mais donc lui il a fini à plus 5, je pense, ou plus 6.
Donc les Français se soutiennent comme ça dans une compétition mondiale, ils se
oui,
encouragent.
Bah, on se soutenait, on se vannait aussi.
Oui. Ça fait partie du soutien, ça, de se vanner.
Oui.
Ça permet de déstresser un peu.
Oui, alors après, c'est vrai qu'ils ont tout tenté pour que je déstresse en deuxième journée, puisqu'ils me sentaient plus tendu, mais c'était compliqué.
Oui, c'était forcément, bien sûr, quand on joue un titre aussi important, c'est forcément un peu compliqué. Alors, on va reparler des Français, si tu veux bien, en dernière partie de l'émission. Mais avant, je voulais qu'on revienne sur ta percée dans le top 10 mondial, puisque voilà, tu as fait une entrée. Bon, tu en es un petit peu ressorti maintenant, puisque je crois que tu es 12e actuellement.
Oui, c'est ça. Mais alors, en fait, je suis rentré dans le top 10 mondial. J'ai commencé à y rentrer, je pense, en 2014.
Ouais.
Après, j'ai eu une série de résultats assez erratiques où j'ai par moment bien joué, par moment très mal joué, et donc finalement je me suis retrouvé dans le top 10, je pense en janvier février 2015, quelque chose comme ça. Et là en fait, donc en février, j'ai obtenu le plus gros classement Elo. Alors je sais plus à quelle place j'étais, mais j'étais à 2775.
Ouais.
Et là pendant 4-5 mois, j'ai commencé à très mal joué, donc au fur et à mesure, donc à pas avoir les bonnes préparations, pas avoir les bons résultats, les choses qui tournaient en ma faveur, et donc j'ai réussi à perdre plus de 50 points Elo.
Mmh.
Donc là j'ai ensuite j'ai eu un déclic. Alors forcément, voilà, comme toute spirale négative peut se finir à un moment, je savais également que bon, ma place n'était pas 2720 points Elo, si on peut dire ça comme ça, et donc je savais que dès que la confiance reviendrait, donc en faisant les bons choix, évidemment, au niveau de l'entraînement, au niveau peut-être me reposer un peu plus aussi entre les tournois, donc toujours est-il que bon, la confiance a fini par revenir, et donc là j'ai enchaîné au contraire les résultats honorables ou très bons, donc que ce soit une nouvelle victoire à Bienne ou quelques bons tournois, notamment à la Sinkefield Cup, où j'ai fini à plus 1, donc avec tous les meilleurs joueurs présents.
Ouais. Alors est-ce que ça te donne qu'est-ce que ça fait d'arriver dans le top 10 mondial à ce moment-là? Est-ce que tu te dis finalement il n'y a plus vraiment trop d'écart avec vraiment le champion du monde, et que maintenant il faut viser tout ce qui est possible d'envisager, quoi, de gagner les grands tournois, et donc à ce moment-là, est-ce que ça te donne une responsabilité supplémentaire aussi? Est-ce que la difficulté là justement, c'est pas de se dire que le plus difficile reste à faire, c'est de se maintenir dans ce top 10 pour essayer d'espérer de gagner le top du top, quoi?
Alors déjà, bon, je pense qu'il y a quand même un gros écart actuellement entre Magnus Carlsen et les autres meilleurs joueurs de la planète, donc ça c'est dit. Bon, alors évidemment, comme toute domination sportive, elle s'effrite au bout d'un moment, et je pense que certains joueurs sont en train de le rattraper. Alors je sais pas si c'est également mon cas, mais c'est-à-dire que c'est vrai que si je n'avais pas eu, mais bon, alors c'est très facile à dire, si je n'avais pas eu cette période justement de 4 mois où mes résultats étaient en berne, je serais sans doute bien ancré dans le top 10, mais bon, ça c'est, encore une fois, c'est très facile à dire, donc c'est au contraire la preuve du travail à fournir pour se maintenir dans le top 10.
Oui, voilà, c'est ça.
Donc c'est vraiment mon objectif à moyen terme de me maintenir dans le top 10, et au contraire de m'ancrer peut-être progressivement dans le top 5, et aussi de me qualifier pour un tournoi des candidats à terme, donc ce ne sera pas en 2016 évidemment, mais pour me qualifier ce sera peut-être en 2018, ce sera un de mes objectifs majeurs.
D'accord, donc ça c'est important à dire, parce qu'on va pouvoir te suivre dans cette
voilà.
Aventure.
Et donc un autre de mes objectifs, donc justement, ce serait de rivaliser, alors dans un premier temps pas avec Magnus Carlsen, qui bon... Dans ses mauvais jours, finit deuxième de ses tournois, donc à part évidemment en Norvège où il a eu un tournoi catastrophique, mais qui ne lui arrive pas tous les jours. Et bon, tournoi catastrophique et il finit un demi-point derrière moi, donc bon, ça ramène sur terre aussi également.
Oui.
À quoi tu... au contraire, ce serait plutôt justement de me rapprocher de tous les joueurs qui sont classés, on va dire, entre la 2 et la 5e place, alors que ce soit les meilleurs joueurs de la génération 75, donc que ce soit ou plus ancienne d'ailleurs, quand ouais. Il s'agit de Vichy Anand, mais je parle de Veselin Topalov, Vladimir Kramnik, qui là, reviennent bien depuis quelques temps. Mm-hmm. Et je parle également de la nouvelle génération, donc que ce soit Hikaru Nakamura, qui n'est plus vraiment de la nouvelle génération, mais qui est encore, donc Levan Aronian, qui lui est un peu plus âgé, mais qui peut revenir à tout moment à un très bon niveau, Alexander Grishuk, bien sûr. La toute nouvelle génération, que ce soit Fabiano Caruana, Anish Giri, donc voilà, tous ces joueurs-là, où bon, je suis peut-être plus proche d'eux que de Magnus, clairement, mais il y a encore du travail à faire, des tournois à remporter pour avoir une chance, je veux dire, de me frotter vraiment à eux et de faire partie des favoris dans un tournoi avec eux.
D'accord, oui, bien sûr, il y a encore du travail. Alors, à quoi tu estimes cette différence? Tu dis que Carsen, donc, te semble quand même aujourd'hui avec un avantage net. À quoi tu estimes cet écart? Est-ce que c'est une meilleure préparation d'ouverture? Est-ce que c'est une meilleure préparation en finale? Est-ce que c'est dû, voilà, à ton avis, est-ce que tu as repéré un peu la raison de l'écart ou est-ce que tu penses que c'est juste une somme de travail voilà, est-ce que tu as une idée de la raison, en fait, de cet écart?
Bah, en quelque sorte, c'est un très bon joueur pratique, donc il fait extrêmement peu d'erreurs, il réussit justement à emmener ses adversaires là où il souhaite les emmener, en général. C'est peut-être un peu moins vrai ces derniers temps, mais bon, en général, disons que voilà, son coefficient d'erreur est moins élevé, et donc voilà, en parlant de façon purement mathématique, c'est normal qu'il ait les meilleurs résultats.
D'accord.
S'il joue mieux que ses adversaires.
Donc d'après ce que tu dis, c'est une capacité à rester mieux concentré plus longtemps, finalement, parce que si on fait moins d'erreurs, c'est pas forcément le niveau de jeu qui est inatteignable.
Non,
mais
moins d'erreurs, moins d'imprécision.
Ouais.
Parce que quand on parle d'erreur, on n'a pas la même, pas forcément la même définition d'erreur. Pour
oui.
moi, une erreur, c'est pas donner un pion, c'est réaliser une concession, pas jouer le coup le plus précis dans la position. Et c'est vrai qu'il a cette capacité à pousser les positions aux limites, enfin mettre la pression sur l'adversaire et vraiment toujours les questions les plus compliquées à résoudre devant l'échiquier, ou pas forcément d'ailleurs les questions les plus compliquées, mais les questions où il pense que son adversaire peut se tromper sur l'échiquier en fonction de l'adversaire.
Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de... Tu parlais de sa force pratique, alors moi ça me fait penser à... forcément au comparatif qu'on peut faire entre deux champions du monde extrêmes, à mon avis, enfin, en tout cas une des façons de voir, c'est bien sûr Lasker, qui était avant tout un joueur qui mettait en avant justement le pragmatisme avant l'exactitude, et Fischer, qui lui cherchait toujours le meilleur coup. Donc toi, ton approche, elle est où par rapport à ces deux extrêmes, le coup vraiment le plus précis ou le coup qui gêne le plus l'adversaire?
Il y a toujours un équilibre à trouver, et je pense que, bon, alors, Magnus l'a très bien trouvé, mais c'est vrai que maintenant, on ne peut plus se permettre de jouer les ouvertures que jouait Lasker à une époque, donc on est forcé plutôt d'essayer d'avoir une préparation qui se rapproche plus de celle de Fischer, ou plutôt de celle de Kasparov. C'est vrai que, bon, avec les logiciels, il y a vraiment tout un travail qui est fait. Mm-hmm. Après, ça n'empêche pas, justement, à certains moments, d'être assez psychologue et donc de rentrer dans des schémas qui vont peut-être essayer d'éclairer plus à notre adversaire, ça peut arriver, mais bon, disons que quand même en grande majorité on va plus se soucier du coup qu'on va jouer que de l'état d'esprit de l'adversaire, même si ça joue un rôle, évidemment.
D'accord. Alors, pour finir, si tu veux bien, on va parler bien sûr de la France et de l'équipe de France. Alors, sur Diagonale TV, cette fois, puisque là on est sur Fréquence Diagonale, le podcast, hein, c'est un peu différent. Mais sur Diagonale TV, on a eu le sélectionneur de l'équipe de France, Sébastien Mazet, à Saint-Quentin, qui nous a parlé eh bien, de ce championnat d'Europe, hein, c'est ça, qui va avoir lieu, je crois bien, en Islande, il me semble.
Oui, en Islande, bah, assez bientôt, hein, puisque on commence la première partie, je pense, le 13 novembre.
Voilà, 13 novembre, donc vous allez vous retrouver avec, donc, avec l'équipe de France au complet. Les filles aussi vont y aller, je crois, hein, c'est au même
oui.
endroit, et l'équipe féminine est au top, puisqu'on aura, il y aura aussi Marie Seba qui sera là, la championne de France sera là, Almira Skripchenko. Voilà, donc c'est une grosse, grosse équipe aussi chez les filles. Donc alors, comment ça se passe l'équipe de France? Comment tu vis ça? Alors forcément, l'équipe de France, c'est particulier, parce que là, c'est vraiment la France qui est représentée, avec les meilleurs joueurs français. Comment c'est vécu? Comment tu vis ça, l'équipe de France? Et comment tu vois ce championnat d'Europe?
Oui, alors c'est vrai, c'est toujours un plaisir. Donc ça fait plusieurs années que je fais partie de l'équipe de France. Donc j'ai commencé à y faire mes premiers pas en 2006 même. Alors après, comment dire, je pense que là, l'esprit justement entre les joueurs est au top. C'est vrai qu'on a la même équipe donc aux Olympiades de Tromsø. Donc après, on avait joué les premiers rôles, c'est-à-dire que bon, on n'avait pas fini sur le podium, mais bon, on était table 1, on jouait le titre encore deux jours avant la fin, donc après on finit sur deux défaites serrées contre la Chine et la Russie. Bon, voilà, ces matchs auraient pu tourner également de notre faveur, surtout celui contre la Chine. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est l'aléa du sport. Donc, et pour être honnête, je préfère avoir fait, je sais pas, 10 ou 11e, je sais plus quel classement fait, en ayant fait ce tournoi, en ayant joué les premiers rôles, plutôt que l'idée de finir 3e en ayant sous-mariné, en n'ayant eu aucune chance de jouer le titre.
Alors ce que tu viens de nous dire, je pense que c'est un point très important que je voudrais discuter avec toi. C'est la question, avant qu'on continue sur l'équipe de France, la question des formats de ces tournois. Notamment le format par équipe qui est en open et où il n'y a pas finalement de match à élimination directe, ce qui serait en plus pour le spectacle extrêmement, extrêmement fort. Et alors qu'est-ce que tu penses du format qui, à mon avis, est le meilleur et qui est celui d'ailleurs des très grandes compétitions internationales des autres sports, tous les autres sports quasiment font ça, et qui a été mis en place cette année par justement Christophe Philippe qui a organisé les championnats et qui a fait pour le championnat de Blitz, je ne sais pas si tu as suivi, mais il y avait un format particulier où il y avait... je sais plus si c'était pas 8 poules et
oui,
les deux premiers.
Et après, voilà. Alors, dans les faits, pourquoi pas, mais après, il y a quand même des problèmes de logistique, c'est-à-dire que on peut pas se permettre de prendre les billets retour aléatoirement, on peut pas.
Ah oui.
Il faudrait décrire un budget aléatoire, bon. Ça fait que c'est assez compliqué à organiser. Après, c'est pas forcément non plus le plus juste sportivement. Je pense, c'est-à-dire que notre format actuellement sportivement va dans 99% des cas donner un vainqueur juste.
Un vainqueur juste, mais est-ce que pour le spectacle, est-ce que c'est vraiment, est-ce que tu penses quand même, quand on regarde les grandes compétitions internationales dans d'autres sports, alors je pense au football en particulier parce que c'est quand même le sport numéro 1, ça reste
oui.
forcément, mais toutes les grandes compétitions internationales, on voit que toutes sont passées à des formats de poules, avec plusieurs essais d'ailleurs. Il y a un format de poule initial, puis des matchs par qualification, et puis on remarque que l'audience et l'intérêt pour la compétition augmentent de façon mais considérable dès qu'on passe en match par élimination, justement.
Oui, bien sûr. Bah, c'est sûr que les matchs de poule, bon, alors il y a toujours un aléa dans les matchs de poule, mais c'est vrai que les matchs à élimination, bon, sont toujours extrêmement tendus, forcément. Mais alors... comment dire, je pense que parfois ça empêcherait voilà, une équipe qui a une mauvaise journée ou un joueur qui a une mauvaise journée pourrait vraiment en faire les frais. Et c'est vrai qu'on voit ça également avec la Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'on a un tournoi par élimination directe qui est la Coupe du Monde.
Oui.
Et où une mauvaise journée est généralement fatale à un joueur. Donc.
Et peut-être parce qu'il manque une phase de poule d'ailleurs, il n'y a pas de phase de poule, c'est-à-dire qu'on passe direct en mode
qualification. Ça change strictement rien, c'est-à-dire que là, d'ailleurs, presque tous les meilleurs joueurs se sont qualifiés, on va dire, jusqu'en 8e de finale, mais simplement, et il ne restait que des gros morceaux d'aller quart, et même peut-être d'aller 8e. Donc après, c'est juste que voilà, l'écart est quand même très, très relatif, et donc la tension à chaque match serait énorme. Après, c'est une idée à creuser, évidemment, c'est une possibilité.
Et est-ce qu'un match par équipe, justement, le fait qu'il y ait justement 4 matchs en même temps, ne n'égaliserait pas justement les variations? Parce que là, du coup, on joue 4 matchs quand même, enfin, il y a 4 parties. Donc ça, si on faisait les matchs par équipe...
Oui, mais alors après, disons, imaginons, pour donner un exemple tout simple, si on prend, par exemple, la Russie, imaginons que, voilà, au 1 avec les Blancs, on est, par exemple, Vladimir Kramnik, qui a une très mauvaise journée, qui perd, paf, et on sent vraiment que, voilà, la partie... part très mal tout de suite, forcément, les coéquipiers vont pas être en confiance, il leur reste de noir, et très peu de possibilités d'égaliser le match. Après aussi, qu'est-ce qui se passe donc en cas de match nul de 2, puisque c'est quand même
mais là, ce qu'il faudrait faire,
mais... donc des tie-breaks en rapide. Oui. Alors, les tie-breaks en rapide, c'est pas que je suis contre, c'est-à-dire que ça fait partie du format coupe, évidemment. Oui. Mais voilà, est-ce qu'on est sûr d'attribuer le titre à un vainqueur qui l'aura forcément mérité, ou est-ce que d'autres équipes n'auraient pas été plus méritantes justement?
Ah, on est sûr. On serait peut-être plus sûr de donner au public une émotion intense, oui. En tout cas.
Oui, alors après, voilà, mais je pense que dans le format actuel, la compétition marche. Alors après, peut-être qu'à terme, une compétition par équipe à élimination directe est une idée à creuser, mais dans l'état actuel, on a un vainqueur juste. Alors après, pour moi, voilà, un troisième qui aura fait le sous-marin,
oui.
Bon, super pour lui, voilà, mais personne ne s'en souvient, hein. Je veux dire, alors, voilà, je te mets au défi de me citer le troisième de l'Olympiade de 2006 ou 2008, voire même 2014. Donc.
Oui.
Et oui. Donc, voilà, pour moi, vraiment, le format open, voilà, déjà, le vainqueur est juste. En général, bon, une autre équipe du podium est complètement méritée. C'est déjà beaucoup par rapport à ce qu'on peut demander à une Olympiade. Et voilà. Alors après, peut-être que les joueurs d'échecs ou le grand public préféreraient une compétition par élimination directe, mais j'en suis même pas sûr. Je pense que dans l'état actuel, vraiment, l'intérêt du public lors de chaque compétition par équipe est quand même toujours assez grand.
Oui, alors bon...
Il y a toujours les meilleurs joueurs du monde qui participent, il y a toujours des chocs, et au contraire, il n'y a pas la possibilité justement de perdre une équipe comme ça sur un malentendu, si on peut dire ça comme ça.
Alors moi, je donne une piste pour quelque chose qui, moi, me paraît en tout cas plus intéressant à commenter, à vivre. Mais bon, bien sûr, après... il faut que chacun travaille cette idée. Bon, je pense que, en tout cas, c'est une idée à creuser qui n'a pas, qui pour l'instant, en tout cas, en plus, n'est pas arrivée au stade de proposition. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu la possibilité d'en parler. Alors revenons à l'équipe de France. Donc ce championnat d'Europe. Alors comment ça s'annonce et comment donc tu parlais de la vie dans l'équipe de France déjà un peu, mais comment tu le sens ce championnat aussi? Donc là, il y aura quand même tous les meilleurs Français seront là. Ça va quand même être chaud, quoi. Il va y avoir un match, j'ai envie de dire.
Oui, alors c'est vrai que déjà en 2013, alors. Il nous manquait Laurent, mais puisqu'il travaillait pour Magnus pendant le championnat du monde.
Oui.
Donc à la place, c'était Hicham Amdouchi qui était pris dans l'équipe. Donc voilà. Après, on avait fini deuxième de cette compétition. On était passé vraiment extrêmement près du titre, je me rappelle. C'est-à-dire que, par exemple, même contre la Russie, je crois qu'on a une possibilité... alors je sais plus si c'est de gagner le match ou de faire match nul, mais toujours est-il que si je pense match nul, et si on fait match nul, on est champion. Donc là, à la place, on finit deuxième. On avait fait tout le tournoi en tête, et gagné quelques matchs importants, justement, par un point d'écart. Donc voilà, ce qui nous avait permis vraiment d'être en tête tout le temps. Voilà, alors après, on peut partir avec les mêmes ambitions, alors en sachant qu'évidemment on fait partie d'un groupe de favoris, mais disons qu'il y a, à part peut-être la Russie, personne ne se détache vraiment entre par exemple l'Azerbaïdjan, l'Ukraine, la France, voilà, mais on fait clairement partie des clairs outsiders.
L'Arménie fait pas partie du...
L'Arménie, évidemment.
Ah oui, l'Arménie.
Oui, évidemment que l'Arménie a une belle histoire avec les compétitions par équipe en plus. Oui. Évidemment, fait partie des favoris.
Oui, ils sont costauds, hein, ça. Ils font peur là, après leurs titres, leurs multiples titres d'Olympiade.
Oui.
Donc alors, ben, je crois qu'on a fait le tour. Max, est-ce qu'il y a un autre point? Alors, c'est quoi après ce championnat peut-être pour finir? Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs quelle va être ta saison, les grands moments de ta saison? Tu as parlé du tournoi de Londres.
Oui. Alors surtout que, alors en fait, ce qui se passe, c'est que le tournoi de Londres va avoir un double enjeu pour moi, c'est-à-dire que
les dates. Rappelle-nous les dates peut-être.
Donc bien de réussir, ce sera 4 au 13 décembre, quelque chose comme ça.
Ouais.
Donc évidemment bien de réussir, ce sera un grand enjeu pour moi. Donc justement, ça me permettrait aussi de m'établir dans le top 10. Donc donc bien réussir, et surtout disons qu'il me faudrait vraiment un excellent résultat, premier ou deuxième je crois, pour avoir une chance de me qualifier pour le Grand Chess Tour de l'année suivante.
Mmh. D'accord, donc gros enjeu.
Oui.
D'accord, donc on sent que tu es concentré, on va pas t'embêter avec ça. Et alors derrière, peut-être ta vie en club, un petit mot sur les clubs où tu joues, notamment en France et peut-être dans d'autres clubs.
Oui, alors disons que c'est vrai que je joue plus régulièrement à Clichy que dans les autres clubs, mais donc Clichy c'est en France évidemment.
Bien sûr.
Donc on a remporté le titre 3 années consécutives justement depuis que je suis revenu en 2012. Là cette année on a raté le titre, notamment au terme d'un match très serré face à Bijwiller qui étaient nos principaux concurrents. Mmh. Mais je pense que l'année prochaine, au prochain top 12 en 2016, on sera vraiment extrêmement motivé pour récupérer le titre.
Oui.
Même si on imagine que ce ne sera pas spécialement facile. Après, donc dans les autres pays, c'est vrai que là, j'ai joué la Coupe d'Europe des clubs avec l'Italie, avec mon club italien de Padoue. On finit quatrième. Mm-hmm. Bon, on a peut-être raté une possibilité d'arriver sur le podium, mais bon, c'est toujours assez erratique ce type de tournoi. Et sinon, donc j'ai joué régulièrement en Espagne avec Bilbao.
Oui.
Avec Sestao, c'est à côté de Bilbao.
Donc. Oui.
En Angleterre avec Guildford. Mm-hmm. Et en Allemagne notamment avec Mülheim. Mais c'est vrai que j'ai gagné parfois le titre de champion d'Espagne, parfois le titre de champion d'Angleterre par équipe. Mais c'est vrai que je joue de façon moins assez erratique par équipe. C'est vrai que j'essaye quand même de limiter ce genre de tournois qui sont plus compliqués à gérer pour moi.
D'accord. Alors, peut-être toute dernière question, un petit mot peut-être sur le fonctionnement de la fédération en France, ça te convient, les évolutions, enfin comment tu vois ça, est-ce que tu es content de l'organisation du championnat de France par exemple, tu étais pas cette année, enfin je sais plus quand c'est que d'ailleurs que tu as participé la dernière fois, est-ce que tu comptes revenir faire le championnat de France, et puis en général sur la Fédé, qu'est-ce que tu en penses, je pense que c'est important parce que l'équipe de France et la Fédé, je pense que ça c'est quand même lié.
Oui, alors après, c'est vrai que j'ai pas vraiment... Disons que je sais qu'il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment, mais c'est vrai que d'un œil extérieur, j'ai pas non plus... j'ai pas non plus tous les éléments qui me permettraient vraiment de m'exprimer. Bon, je sais qu'il y a sans doute certaines choses qui sont en effet à changer, d'autres peut-être moins... Voilà, il y a des choses qui se passent bien, d'autres qui se passent beaucoup moins bien. Mais c'est vrai que, de mon point de vue, c'est pas... Disons qu'il faudrait que je m'investisse pour essayer de voir réellement les dessous et les choses qui vont et qui ne vont pas à la Fédé. C'est pas du tout ma priorité. C'est vrai
oui, bien
priorité,
sûr.
Ma priorité, c'est de jouer aux échecs.
Bien donc, sûr.
Voilà. Après, concernant le championnat de France spécifiquement, c'est vrai que j'ai pas joué depuis maintenant 3 ans, mais alors ce qui s'est passé, c'est que ces 3 dernières années, donc j'ai joué à la place la Coupe du Monde et 2 fois la Zinke Fields Cup, donc qui sont véritablement des enjeux sportifs quand même plus importants, donc
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est aussi ça qui se passe. Après, il est très possible que je fasse mon retour au championnat de France une année proche.
Voilà, évidemment, ça dépendra de ton calendrier, bien entendu. Bah, écoute, merci beaucoup, Maxime. Tu voudrais rajouter un petit mot pour les auditeurs de Fréquence Diagonale, peut-être ?
Non, c'est bon.
D'accord, bah, écoute, merci beaucoup de t'être exprimé sur ta carrière et puis sur ce titre. Hein, c'est un titre vice-champion du monde de Blitz 2015, avec effectivement pas loin de pouvoir l'emporter. Un superbe parcours. Bien organisé d'ailleurs, je crois, c'était quand même pas mal. Voilà, sur un petit peu ton niveau, hein, de top 10 mondial, et puis tes perspectives et tes objectifs. Voilà, merci beaucoup, Maxime.
Avec plaisir.
Merci de nous avoir suivis sur Fréquence Diagonale. Donc, c'était une émission spéciale vice-champion du monde de Blitz 2015. Maxime Vachilagrave, le meilleur français actuellement. Et donc, je vous donne rendez-vous une prochaine fois sur Fréquence Diagonale. En attendant, je vous laisse avec donc notre générique fétiche, Broken Embraces. Au revoir.